qui se cache derrière le micro de vos podcasts favoris, tech, business, lifestyle, culture, sport, gaming ou news. C'est exactement ce que nous découvrons dans Offcast, le off du podcast français et francophone. Nous partons 2 à 4 fois par mois dans les coulisses du podcast français, à la rencontre des acteurs de cet écosystème véritablement effervescent. Dans chaque épisode d'Offcast, vous découvrirez le profil, la personnalité et la passion du ou de la host, mais aussi son parcours, ce qui l'a amené à créer son podcast, comment il ou elle trouve ses sujets, ses invités, sa vision du développement d'une communauté autour de ce format, et ses conseils pour découvrir, comprendre et adopter l'esprit podcast. Je suis Raphaël Grieco, grand fan de podcast, et je suis également à l'origine de l'initiative Podcast Makers, qui réalise les podcasts Offcast. Et oui, Podcast Makers, c'est la première communauté française 100% indépendante de podcasteurs passionnés. Si toi aussi tu es host ou si tu produis un podcast existant, rejoins cette toute première communauté réservée aux hosts et éditeurs de podcasts sur www.podcasts.com. Avant d'entamer ce nouvel épisode, un dernier mot sur le format d'Offcast. Offcast est résolument un podcast différent et en perpétuel renouveau. Pour chaque épisode, un ou une nouvelle host, membre de la communauté Podcast Makers, viendra à la rencontre d'un ou d'une invitée podcasteur, membre également de Podcast Makers. Et maintenant, sans plus tarder, place à ce nouvel épisode d'Offcast.
Salut Jean-Baptiste.
Salut Carla, ça va?
Ouais, très bien, et toi?
Impec, la forme, ravi d'être sur Offcast, ravi de pouvoir parler avec toi.
Ouais, c'est assez drôle en fait de se retrouver, alors que tous les deux on a un podcast sur un autre podcast, ça fait un peu mise en abîme, plus, mais c'est sympa.
C'est ça, et puis ça fait un moment qu'on échange en plus et que moi je regarde ce que vous faites, donc c'est cool de pouvoir potentiellement en discuter aujourd'hui, même si je sais que c'est plutôt toi qui vas me poser des questions.
Grave, mais en tout cas justement merci beaucoup Raph pour tout ça, parce que c'est grâce à toi qu'il y a cette belle communauté qui existe aujourd'hui, donc big up à Raph. Mais écoute, pour commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu, je commence en plus comme ça à chaque fois mes podcasts sur vocation, mais est-ce que tu pourrais commencer par me raconter ton parcours, qu'est-ce que tu as fait avant de créer du coup ton podcast Entreprendre dans la santé?
Ouais, complètement. Donc, moi je suis étudiant en master là, en management dans la santé et en intelligence artificielle, et je suis tombé très jeune, on va dire, dans l'international. Je vais commencer par là, à travers l'apprentissage de l'allemand. Et on va voir que c'est ça qui m'a poussé de fil en aiguille à travailler dans la santé et à lancer ce podcast, parce que on va dire que j'ai toujours été intéressé par faire carrière à l'étranger, tout simplement. Et ça passait par l'apprentissage de cette langue formidable. Et donc, j'ai réalisé plusieurs échanges. Je suis parti travailler très jeune, avec toujours, en fait, cette notion, tu vois, d'être proactif dans tout ce que je faisais pour, en fait, me donner les moyens, si tu veux, de réaliser mes rêves, qui étaient, de travailler à l'étranger plus tard. Et donc, je me disais que, il faut commencer par faire des échanges et puis après, pourquoi pas faire un job d'été. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et par la suite, j'ai fait un bac franco-allemand qui donc m'a permis encore de repartir en Allemagne et donc ensuite de travailler même à travers un job d'été en Allemagne. Et avec ce bac franco-allemand, j'ai pu intégrer une double licence franco-allemande encore en business international, donc là à Dauphine, Université Paris-Dauphine à Paris, et dans une fac partenaire en Allemagne. Et la particularité de cette licence, c'est qu'elle était en apprentissage sur un modèle très spécial, qui est un modèle allemand de 3 mois de cours, 3 mois d'entreprise. Et donc, pendant 3 ans, il fallait travailler à temps complet pour une entreprise. Et là, j'ai eu l'opportunité, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais d'intégrer un leader dans la medtech, qui est donc pour moitié allemand, moitié américain. Et donc tout simplement de travailler à l'étranger dans les filiales de cette entreprise. Et donc c'est comme ça que je me suis passionné pour la santé, cette industrie dans laquelle il y a des gens qui vraiment sont experts sur des technologies ou dans d'autres domaines, mais moi ce qui m'intéresse c'est plus le côté tech et digital, et qui vont vraiment chercher à avoir un impact sur la vie à la fois des patients et des professionnels de santé. Voilà, donc ça c'est plus mon parcours, et après on peut peut-être discuter du podcast, j'imagine.
Ouais, carrément. Juste comment tu l'expliques cet attrait pour la santé?
Ben en fait, moi, je connaissais rien de la santé en commençant à travailler pour cette boîte. Je voulais enfin faire un truc assez classique. J'étais passionné de sport. Je voulais bosser pour un équipementier, tu vois, Nike ou Adidas, etc. Et puis, j'ai même passé les entretiens. J'étais pris chez Decathlon et j'ai passé en parallèle un entretien pour une boîte qui tout simplement cherchait à avoir des profils internationaux pour un programme très spécial. Et donc, je connaissais rien à la santé, mais juste le programme m'intéressait, le fait tout simplement de pouvoir travailler à l'étranger. Et donc, je me suis dit, bon, c'est dingue, c'est une opportunité rêvée de commencer une carrière à l'international. Et donc, c'était soit j'intégrais une boîte qui m'intéressait, on va dire, dans le sport, soit je me détachais un peu de ce rêve de travailler dans le sport et plus, m'ouvrir un peu à d'autres branches et travailler à l'étranger. Donc je me suis dit, bon, ok, c'est quand même dingue, t'as 18 ans, on peut te payer pour voyager, parce que du coup j'étais payé en tant qu'alternant, on payait mes logements, on payait mes avions, hôtels, tout ça. Et donc je me suis dit, non, mais c'est fou, enfin, c'est dingue comme opportunité. Et donc je suis arrivé dans la santé comme ça. Et puis après, vraiment au fil des années, donc de 2017 à 2020, j'ai travaillé en Allemagne, en Autriche, en Suède, au Canada. Et à chaque fois, je changeais de filière, de filière au sein de la boîte. Donc j'ai fait du management produit, du marketing, du business dev. Et à chaque fois, je voyais des choses différentes qui m'ont vraiment passionné.
Trop bien. Et juste petite précision, peut-être pour nos auditeurs aussi, quel âge tu as aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'ai 21 ans. Parce que du coup, c'est ça, j'ai travaillé pendant
Ouais,
3
c'est
ans, mais
ouf,
en alternance.
c'est ce que je me suis dit.
C'est ça. Du coup, je
Ouais.
suis étudiant là en master, mais
Trop bien.
je fais même partie. Je crois que je suis le plus jeune de ma promo, parce que la plupart ont fait des études avant pour certains travailler. Et donc, moi, j'ai réussi à intégrer un master qui est même un master 2, en fait, sans avoir fait de master 1.
Ok.
Donc, c'est plutôt cool parce que j'avais travaillé avant.
Trop bien.
Donc je suis jeune, j'ai un
Bah.
bébé.
Bah, très,
Ouais.
très, très solide en tout cas. Bah, écoute, on parle de tech, on parle de santé, on parle de master et d'études. Donc venons-en à ton podcast. Est-ce que
Ouais.
tu peux nous présenter Entreprendre dans la santé très rapidement?
Ouais, bien sûr. Entreprendre dans la santé, c'est le premier podcast français dédié à l'entrepreneuriat en santé. Donc, comme le nom le dit, entreprendre dans la santé, c'est tout simple. J'interviewe des entrepreneurs dans la santé, donc des fondateurs, des femmes et hommes qui, tout simplement, ont sauté le pas et ont décidé de mener un projet, que ce soit création d'entreprise ou une association, pourquoi pas, ou même un hackathon dans la santé. Et le but, c'est d'inspirer, éduquer et motiver un maximum de personnes à entreprendre dans la santé. Donc j'ai deux formats. J'ai un format plutôt inspirationnel sur lequel je discute du parcours d'un fondateur dans la santé. Donc on revient sur typiquement les grandes étapes de sa carrière, tout simplement de sa passion pour la santé jusqu'à l'entrepreneuriat. Et on parle de ses challenges actuels. Et puis un format un peu plus actionnable qui s'appelle Booster. Et là sur ce format, on parle plus d'une thématique en particulier. Et donc là, on va avoir par exemple le patient empowerment, la vente en B2B dans la santé, plus des sujets terrain. Et donc là, c'est pas forcément des fondateurs.
Ok. Super intéressant d'avoir justement varié les formats comme ça, on y reviendra. Qu'est-ce qui t'a amené à créer ce podcast-là?
Eh ben, tu sais, je te parlais de un peu ce fait d'être proactif, en fait, toujours. En fait, il y a un truc qui me drive un peu, c'est que je déteste perdre le contrôle, on va dire. Je sais que c'est pas top de dire ça, mais je déteste perdre le contrôle, en fait, sur ce qui va m'arriver, tu vois. Comment dire, j'aime. Peut-être qu'il faudrait que je le formule comme ça. J'aime me donner un maximum de chances de réussir à atteindre mes objectifs. Et donc, je te parlais de l'apprentissage de l'allemand, de faire des échanges, des jobs à l'étranger. Le podcast, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que je cherchais à m'ouvrir un maximum de portes pour après, pour travailler dans la santé. Et donc en rentrant de Suède l'hiver dernier, je me suis dit que ben voilà, j'allais étudier dans la santé, mais je n'avais zéro réseau, je connaissais personne dans la santé, et j'étais un étudiant lambda, on va dire. Et donc je me suis dit, ok, comment en quelques mois, d'ici ton diplôme, comment tu vas passer donc de ce statut d'étudiant lambda qui ne connaît que la medtech ou que le dentaire, parce que pour le coup c'était ça, à un étudiant qui a un réseau, qui a plein d'opportunités et surtout a beaucoup appris. Et je me suis dit, bah voilà, je vais pouvoir téléphoner à plein de gens, etc. Il va falloir que je leur envoie plein de messages via LinkedIn, que je les contacte. Mais ces gens-là, bah, ils vont pas m'accorder leur temps parce que justement, je suis un étudiant lambda. Donc, il faut que je crée un contexte, si tu veux, pour les rencontrer. Un moyen de... une plateforme, en fait, qui, moi, me permette de m'inspirer et eux, leur fasse gagner quelque chose.
Ouais.
Et c'est comme ça que le podcast est né, tu vois, c'est assez simple, c'est-à-dire que moi, via le podcast, je les mets en valeur, je leur donne la parole, et eux, ils peuvent parler de leur projet, et moi, tu vois, j'emmagasine toute leur expérience, je m'enrichis vraiment de leur parcours, et en même temps, eh ben, je me mets en valeur de la même manière, parce que j'ai ce projet de podcast qui, bah, forcément, fait parler de moi d'une certaine manière.
Mmh. Hyper intéressant, oui, à la fois, tu t'ouvres des portes pour la suite, et tu te crées un réseau de malades dans un secteur qui t'intéresse, sur lequel tu as envie de bosser plus tard, quoi.
C'est ça, c'est ça. Et en fait, pour faire un peu le pont avec vocation et avec ton projet, tu vois, c'est un peu comme si on prenait vraiment une branche en particulier de vocation. Donc peut-être que tu voudras revenir sur ce qu'est vocation, mais donc l'idée, c'est que bah, plutôt que d'écouter des podcasts sur une industrie qui me plaît, c'est que moi, je vais le faire et je vais prendre le lead sur les personnes que je veux rencontrer.
Ouais.
Et vraiment, ouais, c'est exactement ça. Rencontrer ceux avec lesquels j'ai envie de travailler plus tard ou potentiellement mener des projets, tu vois.
Mmh. Ouais, il y a un peu cette question, je trouve, à la fois de proactivité, de se dire, bah voilà, en fait, je vais me bouger pour arriver à mes objectifs dans un an. Et je pense qu'il y a beaucoup de podcasteurs qui se lancent pour ça, et aussi voilà, se dire qu'en fait derrière le lancement d'un podcast, généralement il y a une intention et c'est motivé par quelque chose qui va aussi servir au host du podcast. On sort rarement, on va dire, un podcast par pur altruisme et par pure envie de servir le monde, mais il y a généralement derrière aussi une envie de rencontrer des personnes inspirantes et de se créer un réseau, et c'est ton cas et c'est mon cas aussi, et c'est le cas, je pense, de beaucoup de podcasteurs.
Ouais, et ça je le cache vraiment pas quand on me pose la question, c'est qu'à la base, et d'ailleurs ça se sent au début quand on écoute les premiers épisodes, c'est que c'est vraiment parti d'un besoin égoïste de rencontrer des gens, et je me suis dit, bah, c'est vraiment le meilleur moyen, et je vais partager ces discussions. Je me suis pas dit, ok, je vais créer un truc pour aider plein de gens, etc. Et c'est ce que c'est devenu, parce que je me suis pris au jeu de pouvoir aider plein de gens. Mais c'est pour ça que, tu vois, je fais pas énormément de communication. Je communique essentiellement via mon LinkedIn. J'ai pas de budget, je vais pas chercher... tu vois, je pourrais aller beaucoup plus loin, en fait. Mais on va dire que je m'en contente pour l'instant de ces rencontres. Voilà.
Très bien. Bah, on va revenir justement sur ça, ta communauté, etc., autour du podcast.
Ouais.
Mais avant ça, un peu, pareil, est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire comment tu as trouvé tes sujets et surtout tes premiers invités ?
Ouais. Ça, c'est un sujet important, je pense. Et moi, en fait, du coup, quand j'ai commencé, je me suis dit, ok, donc... C'est toujours la même chose. Si tu veux, il faut faire effet de levier. C'est-à-dire que tu connais personne, personne te connaît et personne t'attend surtout. Genre, les gens sont habitués aux médias traditionnels, ils sont habitués aux journalistes qu'ils connaissent, bien sûr, et à leurs émissions de télé, etc. Et donc, toi, t'es qu'un étudiant, donc il faut que tu commences vraiment par te faire faire ton trou, on va dire, si tu veux.
Ouais,
et donc, commencer petit. Et donc, le moyen que j'ai utilisé pour ça, bien sûr, bah, c'est le réseau. le réseau et les invités qui sont déjà passés sur d'autres podcasts. Donc, c'est-à-dire que si ces invités sont déjà passés sur d'autres podcasts, bah, ils connaissent le podcast, forcément, ils savent ce qu'est le média du podcast, ils sont habitués à parler devant un micro, et donc, potentiellement, ils sont plus open à bah, passer sur le mien.
Forcément.
Et donc, j'ai commencé à regarder, et bien sûr, moi, j'écoutais bah, bien sûr beaucoup de podcasts, et donc, ben voilà, les deux premiers invités venaient de mon réseau et d'un autre podcast. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Je les ai contactés, un via une connaissance et le deuxième via LinkedIn. Okay. Et après, pour aller plus loin, et ben, c'est à eux que j'ai demandé, OK, qui voudrais-tu me conseiller? Qui as-tu à me présenter pour passer sur le podcast? Et après, bah, de fil en aiguille, c'est comme ça. Et maintenant, on va dire que j'ai plus vraiment à chercher d'invité, mais donc il y a eu une phase où je ne les cherchais plus vraiment, et maintenant, j'essaye d'inverser la tendance pour aller chercher des gens qui m'intéressent le plus.
Ouais. Pareil, ça c'est une tendance, je trouve, qu'on remarque beaucoup. Enfin, nous aussi, c'était pareil pour nous, de se dire, OK... Au départ, du coup, c'est un peu dur de trouver les premiers invités. Tu trouves les premiers, t'as des sortes de leads entrants qui viennent et qui te disent « Hey, moi, j'aimerais bien passer sur le podcast. En tout cas, ça m'intéresse ce que tu fais. » T'es trop content, t'acceptes. Et au bout d'un moment, tu te dis « OK, si je veux un peu reprendre la main aussi sur le contenu que je crée, il faut que je sois plus proactif dans ma recherche d'invités et que j'aille moi aussi, du coup, prospecter, contacter des gens pour avoir vraiment le contenu que j'ai envie de créer et pour rencontrer les gens que j'ai vraiment envie de rencontrer. »
C'est exactement ça. Et surtout, pas se laisser aller, en fait, par ces invités qui te contactent, parce que forcément, cherchent à surfer, on va dire, sur la vibe, sur ton image, etc. Et surtout, bien filtrer, parce qu'il y en a qui écoutent le podcast, il y en a qui ne l'écoutent pas. Et ça se ressent vraiment quand on les fait passer sur le podcast, ceux qui connaissent le projet, ceux qui connaissent le ton donné à ton podcast,
ouais,
et ceux qui, au contraire, veulent juste de la visibilité. Et ça, je trouve qu'au début, je ne m'en rendais pas vraiment compte. Et maintenant, j'y porte vraiment beaucoup plus d'attention.
Ouais, carrément. Je pense que c'est hyper important. Et en fait, de ça dépend la qualité aussi de ton podcast. À ce sujet, est-ce que tu pourrais me dire lequel de tes invités ou me citer l'un des invités qui t'a vraiment marqué ?
C'est compliqué. Ça, c'est vraiment une question compliquée. En plus, je commence à en avoir vraiment pas mal, tu vois.
Ouais.
J'ai réfléchi. J'ai bien aimé... c'est vraiment dur. J'ai vraiment bien aimé un épisode avec Julien Delpech de Indievox. Et un autre Julien, Julien Vidal d'AZNet.
Beaucoup de Julien. OK.
Ouais. Et pour en citer d'autres, un dernier avec Aude Niadanou de l'hôpital.
Voilà. Trop bien. Trop cool. Ouais, c'est toujours dur de faire un choix. Hein.
Ouais, c'est dur. Parce que là, je commence à vraiment en avoir pas mal sur le podcast.
Et bah, du coup, c'est le moment de nous dire un peu en chiffres où t'en es aujourd'hui, combien d'épisodes, quels sont les formats. Donc, tu nous as dit que t'en avais deux différents, mais un peu, voilà, tu pourrais nous donner quelques chiffres sur ton podcast.
Ouais. Bah écoute, là j'ai plus d'une trentaine, on va dire, d'épisodes enregistrés et diffusés, presque tous diffusés, et ça représente environ, je dirais, près de 40 invités, parce que bah voilà, il y a des formats où il y a plusieurs invités. En ce qui est en termes de chiffres, donc chaque semaine il y a environ 450 écoutes. C'est assez modeste. En fait, mais parce que faut savoir que, donc, du coup, l'entrepreneuriat dans la santé, c'est vraiment une niche, parce que quand on parle de santé, il y a plein de gens qui s'intéressent à la santé pure et pas au business ou à l'entrepreneuriat derrière. Et dans l'entrepreneuriat, bah, ça, c'est encore plus niche, parce que l'entrepreneuriat dans la santé, bah, bien sûr, on va vraiment sélectionner qu'une certaine partie de gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Donc, je suis quand même assez satisfait, sachant qu'au départ, comme je disais, c'est vraiment un projet assez égoïste, même si j'aime pas trop le terme. Après, peut-être que ça t'intéresse de connaître un peu l'audience du podcast.
Ouais, carrément.
Souvent, on me demande du coup qui écoute ton podcast. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on dit bah c'est un étudiant. C'est surtout des étudiants qui écoutent son podcast. Et c'est là où en fait c'est assez faux parce que les étudiants représentent, je pense, moins d'un tiers des auditeurs. La plupart en fait sont des fondateurs de petits projets, donc plutôt des projets early stage dans la santé. Et d'autres sont juste employés dans des startups en santé. Et eux vont pouvoir utiliser bah, tout simplement le parcours de ces entrepreneurs pour s'inspirer soit pour leur quotidien, tout simplement comprendre l'écosystème de l'entrepreneuriat en santé, ou potentiellement bah, s'ouvrir eux-mêmes des portes pour après trouver un autre job dans une autre boîte. Mmh. Et donc ça leur permet de comprendre qui sont les différents acteurs.
Voilà. Mmh. C'est ça, t'es sur une niche, mais c'est une niche qui est quand même très engagée, et ça ramène toujours du coup à la question de qu'est-ce qui est plus important, avoir une grosse audience qui te suit ou bien une petite audience, plus modeste peut-être, mais en tout cas très engagée et qui va écouter tous tes épisodes parce que justement t'es sur une niche où le sujet leur tient vraiment à cœur et quelque chose de moins généraliste. Donc pour moi, il y a vraiment cette question-là à avoir en compte et enfin... Je trouve ça top, surtout que tu as commencé il n'y a pas très longtemps, non ?
J'ai commencé du coup en juillet dernier. Donc ça commence à faire, ça fait quelques mois. Et au début, je me disais, tu vois, que j'allais faire un épisode tous les 15 jours. Et j'ai très vite compris qu'en fait, si tu veux avoir tout simplement une audience ou vraiment avoir des gens qui vont te suivre, il faut publier toutes les semaines.
Mais oui, c'est colossal parce que là, si tu es à environ... Enfin oui, c'est ça, en fait, tu en es à un par semaine là.
Ouais, c'est ça.
Chapeau, bravo. Justement, on parle d'audience, donc ce serait peut-être le moment de parler un petit peu communauté. Tu m'as dit que tu avais mis peu de moyens là-dedans, que c'était pas la chose, c'est pas ta priorité. Mais quand même, tu as quand même 400 écoutes par semaine à peu près. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui te suivent, que tu as une audience. Comment est-ce que tu as réussi à la faire grandir ? Comment tu arrives à avoir de la data sur elle ? Et où est-ce que tu la rassembles aujourd'hui ? Si tu la rassembles à un endroit. Ça fait un peu trois questions en même temps, désolé.
Mais... Ouais. du coup, la communauté, je pense que j'ai pas mal de challenges au niveau de ça. C'est-à-dire que c'est vraiment assez disparate. C'est-à-dire que, bah, comme je te disais, tu vois, il y a des fondateurs, il y a des employés et puis il y a des étudiants. Et donc, c'est assez compliqué de les recentrer tous au même endroit. Mais je pense qu'avec LinkedIn, j'ai trouvé quand même un endroit où... voilà, les gens savent que chaque semaine je vais publier un épisode et c'est là-bas que je vais communiquer.
Ouais.
Et donc je communique essentiellement via mon profil perso, c'est-à-dire que maintenant j'ai limité vraiment mes publications à des publications autour du podcast. Donc quand je publie, les gens savent que voilà, ça va être sur le podcast. Je me perds pas dans des news diverses sur la santé parce qu'il y en a beaucoup. Et donc c'est là-bas. J'ai essayé vraiment de concentrer mes efforts sur un seul canal. Et je pense que voilà, si c'est un conseil que j'ai à partager, c'est se concentrer sur une seule chose à la fois. Moi, je savais que je suis pas un pro d'Instagram, et je savais que mon audience était pas là-bas pour l'instant. Et donc c'est là-dessus que j'ai mis le paquet, c'est sur LinkedIn. Et c'est que il y a un mois que j'ai créé mon compte Instagram Voilà, je ne fais pas beaucoup d'efforts là-bas. Je partage à peu près les mêmes stories que sur LinkedIn, c'est pour dire. Donc, je n'adapte pas vraiment le contenu. Peut-être que je vais être un peu plus familier sur Instagram. Mais le gros est sur LinkedIn. Et pour la partie communauté, je pense que l'élément vraiment qui va faire que les gens vont avoir l'impression de faire partie d'un truc, c'est parce que je les contacte personnellement. Donc je leur envoie un message tout simplement quand ils s'engagent avec mes publications. Je vais leur dire « Hey, machin, est-ce que tu as écouté l'épisode ? Qu'est-ce que tu en as pensé ?» Et les gens, généralement, ne s'attendent pas vraiment à ça via LinkedIn parce qu'ils sont habitués à ce qu'on leur push du contenu. Et moi, je fais l'inverse. J'engage, je pose des questions ouvertes pour vraiment avoir une discussion. Donc forcément, le premier message est pas automatisé, mais c'est le même pour tout le monde. Et à partir de là, je vais commencer une discussion. Ce qui est marrant, c'est que voilà, eux vont me dire j'ai aimé cet épisode, mais ce serait cool qu'on ait plus de gens comme ça. Après, ils vont me suggérer des invités, je peux pas tous les prendre, mais généralement, c'est un échange et c'est ça qui plaît aux auditeurs.
Ouais, c'est ça, en fait, aller collecter du feedback vraiment au plus proche des personnes qui t'écoutent et avoir ces conversations en one-to-one où tu arrives vraiment à pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment dans leur tête, pourquoi est-ce qu'ils viennent écouter tes podcasts, ça a pas de, enfin, ça a pas de valeur, quoi, c'est vraiment hyper important.
C'est ça, et je pense que le challenge principal avec le podcast, c'est que, tu vois, il n'y a pas une plateforme comme YouTube. Et c'est vraiment super dur d'avoir de la donnée sur les auditeurs.
Ouais.
Et donc, le seul moyen, c'est vraiment de leur envoyer des messages ou de créer une sorte d'infoproduit ou quelque chose qui va faire que tu vas pouvoir collecter de la donnée massive sur tes utilisateurs. Et ça, justement, moi, j'ai mis juste un formulaire. Donc, j'ai une newsletter.
Ouais.
J'en ai pas parlé, mais j'ai une newsletter. Qui compte aujourd'hui 360 abonnés. Et cette newsletter, pour l'instant, vraiment, j'ai rien fait dessus. C'est-à-dire que je fais juste qu'envoyer mes épisodes. Donc, chaque semaine, quand je publie mon épisode, avant de communiquer sur LinkedIn, je l'envoie via la newsletter. Et donc, via LinkedIn, je ne vais pas partager le lien Anchor ou Spotify. Je vais partager le lien de la newsletter. Et au fur et à mesure, de manière organique, je vais gagner quelques abonnés par-ci par-là.
Trop bien.
Et après, donc ça, c'est manière organique, je vais chercher des sortes de hacks pour faire grossir cette newsletter via des formats spéciaux où voilà, il faut t'abonner pour recevoir le contenu, des choses comme ça. Ou alors, je vais faire du push, hein, bien sûr, via LinkedIn aussi, où là, je vais partager un épisode et je vais dire, tiens, je viens de publier ça, et là, je le partage, le lien de la newsletter. Et si les gens trouvent de la valeur, ils vont s'abonner. Donc là, je peux gagner 30, 40 abonnés avec juste un épisode.
Ouais, hyper intéressant, c'est ça. Il faut trouver des petits hacks un peu par-ci, par-là pour ingénieusement faire grossir ton audience, ta communauté, les gens qui s'abonnent. En passant du coup par différents canaux, que ce soit newsletter, LinkedIn, Insta, enfin tout est bon et ouais, c'est top. On fait un peu la même chose avec Vocation, donc je comprends.
Ouais, vous êtes très fort sur Instagram, ouais. Et assez léger sur LinkedIn pour le coup.
Ouais, on publiait pas mal au début sur LinkedIn et puis j'avoue qu'on a un petit peu arrêté parce qu'on s'est vachement focus sur l'audience jeune.
Ouais.
Et je sais pas si c'était une bonne idée, enfin si, c'était, il fallait le faire au début, mais maintenant justement je pense qu'on va se recentrer un petit peu plus sur LinkedIn parce que je pense qu'on a aussi une audience à aller chercher là, bon bref, c'est un autre sujet, mais voilà. Super, question un peu plus technique maintenant, très rapidement, j'ai l'impression qu'on a le même micro en plus, donc tu vas pouvoir me dire ça. Comment t'as choisi un peu tout ce qui était technique, qu'est-ce que tu utilises comme matos pour ton podcast?
Ouais. J'utilise le même matos depuis le début. J'ai acheté un micro sur Amazon, désolé, mais qui n'est pas le même que le tien. Okay. C'est un micro qui s'appelle Fifin. Alors, j'ai comparé rapidement, c'est une marque allemande.
Ok. Toujours l'Allemagne. En gros, hein.
Ouais. En fait, c'est tout simple, chercher quelque chose qui soit bon rapport qualité-prix, tu vois, et quelque chose qui me tienne. Je voulais pas investir tout de suite dans un Rode, quelque chose de cher, et chercher quelque chose de micro USB pour pouvoir l'emporter partout, quelque chose de léger. Et tu vois, là, je suis pas chez moi, mais je l'ai emporté sans le pied. J'ai juste le micro et ça se branche.
Ouais.
Et ça enregistre directement. C'est ça le plaisir. C'est que moi, j'avais pas envie de me plonger dans des détails techniques. Donc ça, c'est pour le micro. Après, il y a bien sûr un filtre BOP pour les B et les P pour le son. Et après, j'enregistre via Zencaster pour l'audio. Et je monte moi-même les épisodes sur Audacity. Et après, c'est tout simple. Je upload sur Anchor, qui est mon hébergeur. Super. Et ça diffuse partout.
Top. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment le schéma classique, quoi. Enfin, on fait exactement la même chose. Ça marche bien, ça fonctionne, tout roule. C'est pas prise de tête. Je suis assez d'accord avec toi sur tout ça. C'est assez cool.
Ouais, moi, je cherchais vraiment à être le plus minimaliste possible là-dessus parce que je voulais me concentrer sur publier un épisode par semaine, qui est quand même un challenge quand on a plein de trucs à faire. Donc, ça peut peut-être être amélioré, tu vois, l'externaliser, le montage. En fait, ce qui me prend le plus de temps, c'est pas tant le montage de l'épisode en lui-même, c'est la promo et notamment faire le teaser, parce que je vais chercher des petits passages que je vais monter et je vais mettre l'image que je vais communiquer sur LinkedIn, et je cherche les bons passages qui vont être un peu accrocheurs, etc.
Ouais.
Et c'est ça qui prend le plus de temps.
Ça, c'est hyper long, je suis d'accord. Je suis d'accord. Beaucoup de personnes, du coup, beaucoup de podcasteurs l'externalisent, hein, toute cette partie-là.
Ouais. Et toi, tu réécoutes tes épisodes ou comment tu fais ?
Ouais, moi, je les réécoute. On les monte, enfin, on commence un petit peu à externaliser le montage. Mais là, ça fait un an qu'on a commencé Vocation et on a monté tous les épisodes avec Jasmine. C'est l'avantage aussi d'être deux sur Vocation. Ouais. Parce que du coup, en fait, ça te fait deux fois moins de travail sur l'année, quoi. Mais oui, on monte tous nos épisodes nous-mêmes. Et ouais, on les réécoute tous. Mais bon, c'est aussi comme ça que tu te les appropries, je trouve. Et en fait, même en externalisant le montage, parce qu'on l'a fait quelques tests là, on se retrouve à écouter deux, trois fois l'épisode, rien que pour bien l'avoir en tête, rien que pour sortir les passages justement importants, en faire des visuels pour Instagram. Enfin, ça t'enlève pas forcément tout le côté chronophage que peut être la réécoute de l'épisode. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté, enfin, du contenu que tu crées et que t'as envie de réécouter, quoi. Sinon, c'est un peu dommage, quoi.
Et souvent, je pense que, tu vois, on dit le podcast, c'est facile de démarrer, etc. Mais en fait, c'est facile de démarrer si tu veux le faire dans ton coin. Mais si tu veux en faire quelque chose de gros, on va dire, la communication autour de ton podcast et le fait de publier un épisode par semaine, ça va te prendre un temps quand même assez important.
Ouais.
Et ça, faut pas le cacher.
On s'en rend pas compte, je suis assez d'accord. Et justement, sur ce point-là, donc toi, t'es encore... En plus, tu es en master. Comment est-ce que tu fais pour gérer les cours, ta vie pro et ce side project ?
En fait, je pense que, tu vois, j'ai eu pas mal de... Enfin, en fait, c'est vraiment un concours de circonstances, mais comme il y a eu le confinement, je me suis dit, comment tirer le meilleur de ce confinement où, voilà, tu vas être enfermé, tu vas pas pouvoir te connecter avec des gens. Et donc, je vais pas te le cacher, c'est que là... c'est bien pour moi le fait d'avoir moins de pression, on va dire, pour faire d'autres choses en dehors de chez moi.
Ouais,
c'est-à-dire que forcément, je peux mettre plus de temps dans le podcast. Mais c'est un challenge parce que qu'est-ce qui va se passer quand tout va réouvrir potentiellement, je ne sais pas quand ça va être, mais quand on va avoir plus d'activités, il va falloir trouver le temps de profiter des choses à faire et en même temps pouvoir faire ce podcast. Donc, ça, c'est une autre question. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, donc moi, j'enregistre un à deux épisodes par semaine. Il y a des semaines où je vais enregistrer même trois épisodes. Ça varie vraiment en fonction des dispos des invités. Après, j'essaye de monter tout l'épisode, bien sûr, pendant une matinée. Je vais me poser et je vais faire, par exemple, deux épisodes d'un seul coup. Et je vais monter le teaser en même temps et rédiger les textes. Je suis nul sur la rédaction, c'est-à-dire que voilà, j'ai pas fait de formation en copywriting ou quoi que ce soit. Donc j'ai une pote qui m'aidait sur la correction des fautes, etc. Mais maintenant, j'ai vraiment honte de lui demander parce que c'est chaque semaine. Donc tu vois, sans la payer, ça me fait mal de demander de l'aide comme ça.
Ouais.
Donc je prends tout et je fais tout au même moment, par exemple, le samedi matin ou le dimanche, voilà.
Ouais. Oui, c'est ça, tu rationalises tout à un moment de ta semaine, en mode à fond, quoi.
Ouais.
Ouais, ouais, ouais.
C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que le reste du temps, je fais rien, parce que en fait, le reste du temps, il faut savoir que du coup, quand on a un projet comme ça, ça travaille tout le temps.
Ouais.
C'est comme, je pense que c'est comme les entrepreneurs qui ont une boîte, hein, de toute façon, parce que, on peut en parler, mais j'ai aussi d'autres ambitions avec ce podcast. Voilà, j'ai cherché des sponsors, j'en ai déjà eu. Donc forcément, ça travaille, cherche des moyens d'innover. Et bien sûr, il faut répondre à la communauté, il faut répondre aux messages, il faut envoyer des messages. Donc c'est un truc vraiment... qui m'occupe constamment.
Ouais, ça s'arrête jamais.
Pendant les cours notamment. Et puis, tout le temps, t'es dans les transports, tu réponds.
Ouais.
C'est tout le temps.
Ouais, c'est sûr que c'est difficile, je trouve, de couper. Notamment quand t'as envie d'en faire quelque chose, de le développer, comme tu le dis, et pas juste d'en faire quelque chose, un podcast écouté par une poignée de personnes par semaine, qui sont tes potes et ta famille, quoi. Trop bien. Écoute, on va passer à une autre dernière partie qui est plus sur toi un peu, ta vision des podcasts aujourd'hui, et notamment des podcasts français. Est-ce que tu écoutes beaucoup de podcasts ?
J'écoute carrément beaucoup de podcasts, écoute. J'ai pas regardé les stats avant, tu sais, j'écoute via Castbox, donc normalement ça peut me dire exactement combien de temps je passe à écouter des podcasts, mais globalement j'écoute, je pense facilement 1h30 de podcast par jour.
Donc, quoi ? C'est énorme !
Ouais, c'est beaucoup, parce que tout simplement, j'en écoute le matin au petit-déj, j'en écoute le midi pendant que je prépare à manger. Tu vois, j'habite tout seul, généralement, j'ai quand même pas mal de temps, hein. Et puis je me fais une balade à un moment pour couper, donc on est facilement à 1h30. Ouais.
Trop bien. Oui, c'est ça, en fait, c'est bon, pareil, hein, c'est le format qui veut ça, mais ça se consomme tellement facilement, tellement plus que la vidéo, ouais. Tellement plus que l'écrit, que on peut facilement, j'avoue, arriver à 1h30. Et en plus, je dis ça, mais je pense que je suis pas très loin de ça, en fait, quand y repense.
Ouais, mais ça va vite.
Ouais, ça va hyper vite, en fait. Quel est le premier podcast que t'as écouté ? Tu te souviens ou pas ? Comment t'as découvert ?
C'est une très bonne question, ça. C'est une très bonne question. Ouais, si, je sais. C'était, moi, j'écoutais beaucoup de podcasts sur la vente parce que, je voulais bosser dans la vente, être business developer. Et donc, pour moi, le meilleur moyen d'apprendre sur un sujet, c'est vraiment de se plonger à fond dedans. Et notamment, je me disais que, voilà, j'ai pas la chance de pouvoir être, on va dire, dans la mecque de la vente qui sont les États-Unis. Donc du coup, je me suis dit, je vais écouter beaucoup de podcasts des experts américains. Et donc, j'écoutais, je l'ai encore là, j'ouvre l'appli, j'écoutais des podcasts qui s'appelaient Sales Success Stories, Inside okay. Selling, voilà. Donc des podcasts vraiment très, très vente.
Ok, trop intéressant, puis, ouais, c'est après, comme ça que t'es tombé dedans.
Ça a évolué et maintenant j'en écoute pas mal. Mais c'est resté vente, entrepreneuriat et lifestyle, de plus en plus lifestyle. Je sais pas si tu connais Stan Leloup. Voilà, il a un podcast qui s'appelle Nomad Digital. Voilà, ça parle pas mal de podcasts, de lifestyle et d'entrepreneuriat, donc c'est cool.
Tu nous parles là de tes podcasts que tu écoutes en ce moment. Est-ce qu'il y a vraiment un podcast qui t'a marqué et que tu trouves emblématique ?
J'aime pas mal Nouvelle École.
Il revient pas mal de fois.
Nouvelle École. Et puis, je t'aurais dit, je pense, à un moment, Génération Do It Yourself. Mais j'ai tendance à m'en détacher pas mal. Parce que. Je sais pas. C'est intéressant, mais il faut vraiment choisir ses invités. Pas tous ne me plaisent, alors que Nouvelle École, tu vois, j'aime vraiment le ton qui est donné, et peu importe le sujet, je trouve que ça va quand même me plaire. Ouais. Et plus récemment, j'aime bien Marketing Mania, qui est bien, parce que ça me parle, on va dire que c'est pas mal ma tranche, on va dire, de contenu.
Ah, super, j'allais te demander un podcast actuel que tu recommanderais, mais du coup, j'imagine que c'est Marketing Mania. Est-ce qu'il y en aurait un autre non?
Des podcasts qui sont terminés, il y a Nouvelle École, franchement je vous le recommande vraiment, et puis après moi j'écoute Nomad Digital en ce moment à fond, et des podcasts américains, j'écoute The Tropical MBA aussi, voilà.
Trop bien. Tu vois, là on a parlé des podcasts américains, des podcasts français un peu aussi, quelle est ta vision aujourd'hui de la scène du podcast français ?
La scène du podcast français, écoute, c'est une scène qui est en construction. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le monde veut faire son podcast.
Ouais.
Ce qui est cool parce que plus il y a de podcasts, plus il y a d'auditeurs de podcasts. Et donc, c'est cool parce que ceux qui sont déjà là vont gagner des auditeurs, forcément.
Ouais.
Donc, je ne le vois pas vraiment comme une compétition. Après... Tu vois, là, c'est comme un peu le délire de Clubhouse. il y a une grosse effervescence sur le podcast. Un peu moins, du coup, depuis qu'il y a Clubhouse, ce qui est intéressant de constater. Mais je pense que c'est quelque chose qui est voué à durer parce que, en fait, les meilleurs vont chercher à produire de la qualité et à être consistants et pas juste à avoir quelque chose pour être dans la tendance. Parce que, comme on le disait, c'est quelque chose qui est dur à maintenir sur la durée. Et donc, à l'instar d'un live qui peut être très spontané, si tu veux de la qualité, il faut préparer ton contenu et il faut être là au rendez-vous pendant X mois, voire même X années. Et donc, je pense que, tu vois, il va y avoir une sélection qui va se faire et un écrémage progressif. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à ce que seuls les meilleurs survivent. Ou les plus déterminés, tu vois. Ouais. Ceux qui ne portent peu d'attention à l'audience, finalement, et qui ne sont là que pour leur propre gouverne.
Ouais.
Je sais pas comment dire.
ouais, je suis d'accord. La compétition est assez rude. Et en fait, si tu cherches à avoir une grosse audience, le propre... Alors, je sais plus où est-ce que je lisais ça, mais la particularité du podcast et en fait de tous les contenus que tu consommes en ligne, c'est qu'en fait, à partir du moment, à la seconde où ça te saoule, bah, tu peux juste fermer l'onglet et arrêter d'écouter le podcast, tu vois. Et c'est pas quelque chose que tu peux faire quand tu vas au cinéma ou à un concert ou que tu consommes des contenus en physique, quoi. Et du coup, ouais, ça demande une attention au contenu que tu crées et à sa qualité qui est juste énorme, parce que sinon, en fait, juste ton auditeur, il se barre, quoi. Et c'est hyper important, je trouve, à garder en tête.
Complètement. Surtout si tu as une démarche bah, tu vois, comme vous pouvez avoir avec Vocation, où vous allez vraiment créer du contenu qui est voué à ajouter vraiment de la valeur à vos auditeurs et qui a en plus une démarche de partenariat avec d'autres organisations, etc. Vous, le but, c'est de garder l'auditeur le plus longtemps possible, de faire de le fidéliser, etc. Là où moi, je suis vraiment resté dans le côté indépendant, ouais, où je partage vraiment juste mes discussions, tu vois.
Totalement.
Je vais pas dire que voilà, si la personne n'aime pas ce que je produis, tant pis, tu vois. Mais c'est presque ça. C'est presque ça, d'une certaine manière, parce que j'ai envie de rester libre sur ce que je produis et c'est vraiment ça que je véhicule, c'est faire un truc qui me fait kiffer. Et tu vois, le jour où j'y prendrai plus de plaisir, bah, on me demande souvent qu'est-ce que tu vas faire de ton podcast dans 8 mois quand tu auras trouvé un job, etc. Je sais pas. La réponse est je ne sais pas. Peut-être que j'en sortirai moins, peut-être que je ferai des formats plus spontanés, peut-être que ça va changer de sujet, mais je veux toujours faire un truc qui me fait plaisir, quoi.
Trop bien. Justement, en parlant de kiff et de plaisir, quel est l'invité que ça te ferait vraiment mais kiffer de recevoir sur le podcast?
Dans ma thématique?
Ouais. Et après, Moonshot, un peu les deux.
Ok. Ça, c'est une bonne question. Je me suis jamais vraiment posé cette question parce qu'en fait, la plupart des invités que je trouve le plus intéressant en podcast, c'est pas forcément ceux qui ont été le plus médiatisés.
Ouais.
Et donc, ou qui ont monté des géants, tu vois. Je pourrais te dire, j'aimerais bien discuter avec le fondateur de Doctolib, par exemple, qui est quand même, c'est énorme, Doctolib, aujourd'hui en France, dans l'entrepreneuriat santé. Mais j'ai assez peu vu d'interviews ou autres. Donc peut-être que j'aimerais bien discuter avec lui, tu vois, pour comprendre vraiment comment une licorne peut façonner la santé de demain avec l'État. Parce que tu vois, de plus en plus, c'est des collaborations entre l'État et Doctolib. Et vraiment, demain, il va falloir travailler avec des startups comme Doctolib pour être à la fois agile et en même temps avoir le consentement de la population et vraiment construire des solutions qui vont être utilisées par un maximum de patients demain. Voilà.
Ouais, j'avoue. Donc, que
je pense que ouais, ça sera un bon invité.
Ouais, je pense que ce sera un bon invité aussi, si jamais il nous écoute.
Ouais.
Écoute, Jean-Baptiste, merci beaucoup pour toutes ces, cette discussion. J'ai été ravie d'en savoir plus sur entreprendre dans la santé, sur ton parcours aussi. Je trouve ça... Enfin, ce matin, j'ai tourné un autre épisode d'un podcast avec Samuel Durand, je ne sais pas si tu le connais, qui travaille sur la, sur le futur du travail, qui a une newsletter sur le sujet, qui écrit un documentaire sur le sujet, qui a fait un tour du monde sur le sujet, et il a mon âge. Et en fait, j'étais encore une fois bluffée par sa proactivité. Là, c'est un peu pareil avec toi, j'ai l'impression que je trouve ça assez impressionnant de se bouger autant et d'être proactif et de faire des choses. Alors que t'as 21 ans, t'as déjà travaillé pendant 3 ans et maintenant tu sais que tu vas devoir trouver un job et t'as interviewé 40 personnes dans le secteur qui t'intéresse pour te créer un réseau, donc je trouve ça assez dingue, donc déjà bravo pour ça.
Merci en tout cas de m'avoir donné la parole sur ce podcast, c'est vachement cool d'être de l'autre côté, c'est assez... Dans les avantages du podcast, outre le fait de se créer un réseau, on apprend aussi à parler et à poser les bonnes questions. Et on n'en a pas parlé, mais
ouais.
Aussi à échanger. Et je pense qu'on a tous les deux gagné beaucoup
clairement.
Là-dessus. Clairement. En tout cas.
Ah ouais, pareil pour moi, clairement. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut te retrouver si on veut t'écrire, si on veut s'abonner et recevoir tes podcasts? Où est-ce qu'on te retrouve?
Ouais. Sur LinkedIn, c'est vraiment ma maison. Jean-Baptiste Michel, vous pouvez me retrouver là-bas. Et puis là-bas, sur mon profil, vous aurez vraiment tous les liens pour Substack. Et donc c'est là où il y a ma newsletter. Et après, le podcast est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Entreprendre dans la santé, tout simplement.
Super. Merci beaucoup, Jean-Baptiste.
Merci, Carla. À bientôt.
Salut, à bientôt.